Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Dans la guerre qui oppose Israël au Hamas, il y a un acteur qui est évoqué presque quotidiennement, ce sont les États-Unis. Dans La Loupe, on s'est d'ailleurs intéressé aux livraisons d'armes américaines à l'État hébreu, aux conséquences jusque dans la course à la Maison-Blanche en novembre prochain, et même à la relation entre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le président Joe Biden. Nous aurions pu également évoquer l'agitation que provoque le sujet sur les campus des plus grandes facs américaines, poussant même la directrice d'Harvard à démissionner. Bref, les conséquences du conflit israélo-palestinien sont nombreuses outre-Atlantique. Mais il y a un autre pays, plus proche de nous, qui est largement divisé autour de cette question. Au Royaume-Uni, toute la classe politique est touchée, même la famille royale, en la personne du prince William, s'est exprimée sur le sujet. Résultat, c'est tout le modèle de société britannique qui est aujourd'hui mis à l'épreuve. On vous explique tout dans cet épisode de La Loupe. J'ai donc logiquement fait appel à la correspondante de l'Express au Royaume-Uni, Agnès Poirier. Elle est déjà en ligne avec nous. Bonjour Agnès.
Bonjour Charlotte.
Agnès, il y a plusieurs mois, juste après les attaques du 7 octobre et le début de la guerre à Gaza, on avait vu les très grandes manifestations de soutien aux Palestiniens à Londres. Mais qu'en est-il depuis ?
Écoutez, il y a toujours beaucoup de manifestations pro-palestiniennes, pratiquement tous les jours dans le pays. Et d'ailleurs, elles prennent plusieurs formes parce que des lieux improbables, finalement, on pourrait se dire, comme le British Museum, ont été investis par des militants pro-palestiniens qui ont fait un sitting. Il y a aussi, par exemple, à Cambridge, dans la célèbre bibliothèque d'un célèbre et très prestigieux collège, le Trinity College, une jeune militante pro-palestinienne a détruit un tableau du début du XXe siècle. Mmh. Il y a d'autres événements, notamment le 21 février dernier, un slogan, le fameux slogan pro-palestinien en anglais, c'est « From the river to the sea », qui promet, si vous voulez, une Palestine de la rivière du Jourdain jusqu'à la Méditerranée et en excluant de facto l'existence de l'État israélien. Eh bien, ce slogan a été projeté sur Big Ben et sur la façade du Parlement. Tout ça sans que la police n'intervienne. Et d'ailleurs, la police de Londres a dit qu'elle avait considéré qu'il n'y avait pas de délit, malgré la présence de nombreux slogans antisémites, antisionistes.
Justement, Agnès, en France, on a pu constater depuis le 7 octobre une hausse des actes antisémites. Est-ce que c'est le cas aussi au Royaume-Uni ?
Oui, tout à fait. Les actes antisémites sont en hausse, plus de 4000 en 2023, et c'est le niveau le plus haut depuis le début de leur recension. En 1984, donc cela veut dire quelque chose. Et puis il n'y a pas que ça, il y a aussi les campagnes d'intimidation, de menaces sur les réseaux sociaux qui contribuent à cette atmosphère d'insécurité finalement. Mmh. Et il y a des députés qui sont pris pour cible et qui font l'objet vraiment de campagnes d'intimidation intenses. Et certains parfois préfèrent rester chez eux plutôt que d'aller participer à des votes sur la question du Moyen-Orient au Parlement. Par peur de représailles. On sait d'ailleurs aujourd'hui que 3 femmes députées, on ne connaît pas leur identité, mais on sait qu'elles viennent à la fois des partis conservateurs et travaillistes, elles bénéficient aujourd'hui du même niveau de protection que le Premier ministre et la famille royale. Donc ça en dit beaucoup.
Tu évoques la politique. Quelle est la position du Royaume-Uni au niveau international sur le sujet du Proche-Orient ?
La position du Royaume-Uni est prudente et évidemment elle évolue en parallèle de la situation sur le terrain. Le Royaume-Uni, par exemple, s'est abstenu lors de résolutions aux Nations Unies en décembre dernier. Mm-hmm. Et alors, ça peut donner lieu d'ailleurs à des débats vraiment houleux au Parlement. En février, par exemple, ça a été le chaos total à la Chambre des communes parce que le Speaker, c'est-à-dire le président de la Chambre des communes, n'a pas respecté le protocole. Or, le protocole, c'est quelque chose de très important en Grande-Bretagne. Il n'a pas respecté les usages. Et donc, cette séance était dédiée à un parti d'opposition. Mais il a préféré mettre une autre motion au vote pour éviter que la tension augmente.
Which restricts order. Order. Oh.
You'll be going and not be voting.
Alors, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, on entend vraiment très clairement le niveau de tension, et c'est vraiment une illustration du niveau de tension dans la classe politique. Mais il y a d'autres exemples. On pourrait parler d'une élection partielle qui a énormément fait réagir la classe politique le 29 février.
Tu nous expliques ce qu'il s'est passé lors de cette élection ?
Alors, c'est une élection législative partielle qui a eu lieu le 29 février dans le nord de l'Angleterre, à Rochdale. C'est une circonscription de à peu près 110 000 habitants, dont un tiers de musulmans d'origine indo-pakistanaise. Le Parti travailliste avait un candidat qui, selon toute probabilité, allait gagner, sauf que juste deux semaines peut-être avant le vote, eh bien, il a publiquement colporté des théories du complot sur le rôle d'Israël lors des attaques du Hamas. Donc, il y a eu quelques jours de flottement. Keir Starmer, le leader du parti, a fini par l'écarter, inévitablement, mais il ne restait pas assez de temps pour désigner un autre candidat. Donc, il n'y avait pas de candidat travailliste à ces élections.
Et donc, qui s'est présenté à sa place ?
Il se trouve qu'un ancien du Parti travailliste, qui est très connu en Grande-Bretagne, qui s'appelle George Galloway, qui est une figure très polémique parce que c'est un proche du Hezbollah, c'est un proche du Hamas, c'est un soutien de Poutine, c'est un soutien de bien des dictateurs sur la planète, et il s'est engouffré dans la brèche et il s'est présenté en tant qu'indépendant. Et il a fait toute sa campagne sur le conflit au Moyen-Orient. Et je pense que tu as compris qu'il l'avait gagné, il a été élu le 29 février, et ça a vraiment créé une onde de choc en Grande-Bretagne. Et quand les résultats étaient officiels, il a dit « ça, c'est pour Gaza ». Et le Premier ministre conservateur Rishi Sunak a réagi, il s'est adressé à la nation devant Downing Street, et il a dit que avec cette élection, la cote d'alerte avait été dépassée, et il a mis en garde le pays contre le chaos et la violence.
Face à ces tensions dans la société, que fait justement le gouvernement de Rishi Sunak ?
Alors, Rishi Sunak a essayé de reprendre la main et il a demandé immédiatement à son secrétaire d'État à l'égalité des chances, Michael Gove, d'essayer de redéfinir le terme d'extrémisme. Alors, il ne s'agit pas de redonner une définition légale, mais il s'agit en fait de couper tout financement public à des associations ou à des individus qui pourraient comme ça avoir des postes dans l'administration centrale. Alors, cet extrémisme, il est défini ainsi. C'est comme la promotion ou la manifestation d'une idéologie fondée sur l'intolérance, la haine ou la violence, visant à saper les droits ou les libertés d'autrui. Il rajoute également que seront jugés extrémistes tous ceux qui cherchent à affaiblir ou renverser les droits ou le système démocratique britannique.
La société et toute la classe politique britannique se divisent autour du conflit israélo-palestinien et vous allez l'entendre, cela pourrait déstabiliser les partis politiques à l'approche des élections. Agnès, avant de poursuivre, je pense qu'on a besoin d'un petit rappel sur le fonctionnement de la politique anglaise.
Alors, on a surtout deux grands partis qui ont été fondés au XIXe siècle. D'abord le parti Tory, qui représente toute la droite, mais conservateur. Le chef des Tories, c'est le Premier ministre, c'est Rishi Sunak, qui est donc Premier ministre depuis octobre 2022. Et à noter quand même que le Premier ministre Sunak est le premier à Downing Street d'origine indo-pakistanaise.
L'autre parti, Agnès, c'est donc les travaillistes.
Alors tout à fait, c'est ce qu'on appelle aussi le Labour, et ça englobe, pareil, toute la gauche, donc du centre jusqu'à l'ultra-gauche. À leur tête, Keir Starmer, C'est quelqu'un que les médias britanniques adorent définir comme boring, c'est-à-dire ennuyeux. C'est un social-démocrate, donc c'est un homme de gauche, de centre-gauche.
Et est-ce qu'il y a d'autres forces politiques ?
Il y a les libéraux-démocrates, c'est le troisième grand parti de Grande-Bretagne, mais ils n'ont pas été au pouvoir depuis bientôt 100 ans. Et puis, on peut aussi parler des nationalistes écossais, qui ont formé un groupe très fort à Westminster, mais disons que leur souci principal, évidemment, c'est l'Écosse. Il n'existe pas vraiment d'extrême droite, en tout cas forte en Grande-Bretagne, même si elle existe, mais c'est un peu une extrême droite caméléon. C'est-à-dire qu'elle a existé, c'était le Brexit Party, par exemple, qui n'existe plus, puisque le Brexit a été réalisé. Et aujourd'hui, il y a un embryon de parti présidé par Nigel Farage, et ça s'appelle Reform UK. Voilà, mais le rapport de force, quand même, reste vraiment très binaire. Et on peut dire que le conflit israélo-palestinien a révélé des crises fondamentales dans chacun des deux grands partis.
Comment ça s'illustre d'abord chez les conservateurs ?
Alors, en fait, la droite dure des Tories, il y a eu pas mal de rhétorique, on va dire, populiste, notamment Lee Anderson, qui est quand même un ancien président du parti Tory, qui est un dissident, puisqu'il est parti avec Nigel Farage pour le Reform UK, mais juste avant de partir, il avait notamment traité Sadiq Khan de maire de Londres aux mains des islamistes. Et puis, bon, mais il y a d'autres figures du parti Tory qui estiment que les manifestations pro-palestiniennes sont des marches de la haine.
Et qu'en est-il dans le camp des travaillistes ?
Il y a une résurgence de l'ultra-gauche, qui est évidemment volontiers pro-palestinienne et antisioniste, et que l'on croyait disparue depuis les années Jeremy Corbyn.
Agnès, tu peux nous rappeler qui est Jeremy Corbyn ?
Alors, c'est le prédécesseur de Keir Starmer. Il a été chef du Labour, donc des travaillistes, de 2015 à 2020. Et Corbyn, c'est l'éternel révolté. C'est le député qui a toujours voté même contre son propre parti. Et bon, ça a été une calamité quand il a été à la tête du parti travailliste, puisqu'il a contribué quand même à la victoire éclatante de Boris Johnson en décembre 2019, puisque les électeurs travaillistes ne se reconnaissaient pas dans ce militant, qui d'ailleurs a fait fuir énormément deux députés travaillistes juifs, parce que son anticapitalisme prenait très très souvent des allures d'antisémitisme.
Jeremy Corbyn et ses proches ont donc été poussés hors du parti travailliste. Pourtant, tu l'as dit, l'ultra-gauche est de retour. Comment ça s'illustre ?
En novembre dernier, donc quelques semaines seulement après les attaques du 7 octobre, il y a eu un vote au Parlement au sujet d'un cessez-le-feu immédiat. Keir Starmer a dit non, je propose au vote des pauses humanitaires. Mais il est trop tôt pour demander un cessez-le-feu immédiat. Eh bien, quand même, plus d'une cinquantaine de ses propres députés l'ont laissé tomber, puisque eux réclamaient un cessez-le-feu immédiat. Donc, il y a comme ça des tiraillements quand même et une résurgence de cette gauche à la gauche de Keir Starmer. Et donc, il va falloir qu'il en tienne compte dans les prochains mois et prochaines années.
Agnès, si ça perturbe à ce point chacun des partis, est-ce que ça peut avoir des conséquences électorales ?
D'après les analyses politiques, cela ne devrait avoir aucun impact, ou en tout cas un impact totalement marginal et juste dans certaines circonscriptions. C'est-à-dire que l'avance du Parti travailliste est telle qu'ils peuvent peut-être, dans certaines circonscriptions, avoir un peu moins de votes, mais cela n'arrêtera pas le raz-de-marée. Les Tories, les conservateurs, ont été au pouvoir quand même depuis maintenant 14 ans. Ils sont éreintés, il y a une guerre civile au sein du parti conservateur, et il semblerait que non seulement le Labour va gagner les prochaines élections, mais il risque d'être au pouvoir pendant au moins 10 ans.
On va donc surveiller avec toi, Agnès, les résultats de l'élection, même s'ils semblent déjà connus d'avance.
Oui, tout à fait, mais alors, ça ne veut pas dire que le sujet ne va pas avoir des conséquences à long terme. Hein. C'est tout le fonctionnement de la société britannique et son multiculturalisme qui se trouve aujourd'hui perturbé.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Agnès, tu viens d'employer le terme de multiculturalisme. C'est justement l'un des sujets de prédilection de la directrice déléguée de l'Express, Anne Rosenchère. Elle vient de me rejoindre en studio. Bonjour Anne.
Bonjour.
D'abord, comment est-ce qu'on définit le multiculturalisme ?
Alors, il y a plein de façons de le définir, mais je dirais que en matière de philosophie politique, le multiculturalisme, c'est une vision de la société comme une coexistence de différentes cultures qui cohabitent les unes à côté des autres, sans pour autant se fondre ni se mélanger dans un socle commun. Donc ça prévaut beaucoup dans les pays anglo-saxons, notamment au Royaume-Uni et aux États-Unis. C'est cette idée, si vous voulez, de melting pot. Mais c'est une façon assez relativiste de voir les choses. À chacun son folklore, à chacun sa coutume. Il faut respecter les différentes origines jusqu'à ce point-là.
Anne, Agnès, d'où elle vient cette vision de la société au Royaume-Uni particulièrement ?
Oh, elle vient de plusieurs choses. C'est leur histoire, notamment une histoire libérale et aussi, je dirais, vraiment la sacralisation de l'individu, du droit individuel, qui fait que on doit reconnaître absolument ce droit à la différence de chacun, qui rentre en confrontation avec le modèle français. Mais je dirais que l'individu y est peut-être un petit peu moins sacré que dans la tradition philosophique britannique.
C'était aussi un principe qui était appliqué dans les colonies britanniques du temps de l'Empire. L'administration britannique dans les colonies respectait l'administration locale et la laissait vivre de façon parallèle. Et c'est un petit peu ça ce qui se passe. Donc c'est une logique à l'opposé de la logique française.
Et comment ça s'illustre ce multiculturalisme ?
Ça va très loin. Au Royaume-Uni, on le sait assez peu, mais il existe des conseils locaux de la charia qui, essentiellement sur des questions de droit familial, peuvent dire la règle en parallèle de la règle britannique. Pour nous, Français, avec notre point de vue, ça nous choque énormément parce qu'on se dit ben c'est un deux poids deux mesures, notamment possiblement en matière de droits des femmes, que nous n'envisagerions pas chez nous.
Justement, quel est le modèle d'intégration en France ?
Alors, le modèle d'intégration en France, qu'on peut appeler sous divers noms, mais notamment l'universalisme républicain, est un modèle dans lequel on se fonde dans une espèce de creuset assimilationniste, c'est-à-dire dans l'espace de la cité, c'est l'endroit où l'on est en public et où on est des citoyens. Ces particularismes-là doivent être discrets. Ça ne veut pas bien sûr dire que nous n'avons pas d'identité, mais que quand on est dans un espace de citoyenneté, on met avant tout des valeurs qui nous rassemblent en avant, plutôt que de mettre nos différences en avant. C'est une différence de conception très importante et c'est ce qui a accouché de la laïcité, voilà, qui est vraiment une notion propre à notre modèle à nous.
Les deux modèles, est-ce qu'ils sont souvent comparés ou opposés ?
Bien sûr, c'est un débat perpétuel, notamment, par exemple, notre laïcité est assez mal comprise dans les pays anglo-saxons, qui la voient comme quelque chose de liberticide, notamment la loi de 2004 sur les signes ostentatoires de la religion à l'école. En Angleterre, vous pouvez aller à l'école vêtue d'un voile, ça leur pose aucun problème. Nous, on a décidé que l'école était un lieu de sanctuarisation de l'esprit chrétien, critique, où finalement on devait laisser nos différences de côté pour l'espace d'un moment. Ça n'empêche que quand vous rentrez chez vous, bah vous rentrez avec votre religion, avec ce que vous voulez, mais l'espace d'un moment, vous avez mis en commun d'abord ce qui rassemble les élèves français avant de mettre en avant les différences et les origines différentes, on va dire.
Agnès, est-ce que cette remise en question du multiculturalisme britannique, elle est récente ?
Alors non, en effet, ça date quand même des attentats, je dirais, de 2005, donc à peu près une vingtaine d'années, une génération. Alors plus récemment, au lendemain de l'attentat de London Bridge en 2017, la première ministre Tory de l'époque, qui était Theresa May, avait appelé les Britanniques à ne plus vivre, je cite, dans une série de communautés séparées et ségrégées, mais comme un véritable Royaume-Uni. David Cameron, aussi l'ancien Premier ministre conservateur, en 2008, affirmait que le multiculturalisme avait entraîné un apartheid culturel. Et aussi à gauche, hein, en 2001, avant même les attentats de Londres de 2005, les prises de position de David Blunkett, qui était alors ministre de l'Intérieur de Tony Blair, qui disait qu'il fallait absolument qu'il y ait un minimum d'intégration culturelle et linguistique des gens qui venaient s'établir en Grande-Bretagne. Donc, on va dire que ça fait 20-25 années qu'elle est remise en question.
Et le modèle universaliste, est-ce qu'il est également remis en question en France ?
En France, oui, bien sûr. Notamment, je dirais qu'il y a une bataille un peu culturelle, c'est-à-dire que ce qui nous arrive, notamment via les États-Unis, par les séries Netflix ou les films Hollywood, etc., est très imprégné de la philosophie politique multiculturaliste et pas du tout imprégné de ce qui nous arrive à nous depuis la Révolution française, on va dire. Et le 7 octobre a eu des répercussions et pour moi, c'est quand même le signe que notre modèle continue de fabriquer cette fraternité républicaine qui, pour moi, en fait, est le vrai bouclier et le vrai abri pour les minorités, quelles qu'elles soient. C'est ça le grand paradoxe pour moi, c'est que le multiculturalisme dit qu'il respecte les minorités, mais à mon avis, fait monter tellement les haines identitaires qu'il les met en danger. Alors que le modèle de l'universalisme républicain, qui comme ça intuitivement peut paraître plus liberticide, plus hostile aux différentes origines et aux cultures, etc., en vérité, donne cet abri d'une identité commune sous lequel on peut, à mon avis, plus facilement s'abriter.
Comment le conflit israélo-palestinien rebat les cartes du multiculturalisme et de l'universalisme ? Les explications étaient signées Anne Rosenchère, directrice déléguée de la rédaction de L'Express, et Agnès Poirier, correspondante au Royaume-Uni. Merci à toutes les deux.
Merci.
Merci Charlotte.
Chers auditeurs, vous pouvez retrouver tous leurs articles dans le magazine et sur le site l'express.fr. Je vous signale que l'abonnement numérique est en ce moment à 1 euro le premier mois. Et si nos épisodes vous plaisent, pensez à nous le dire en commentaire sur votre application de podcast préférée, par exemple Deezer, Castbox ou Spotify. Vous pouvez aussi nous suivre pour ne rien rater. Cet épisode a été monté par Léa Bertrand et réalisé par Jules Cros. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.